Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Je pense entre autres aux gens, bien sûr, de l'Outaouais qui nous écoutent sur le 104.7, les gens de l'Estrie, 107.7. Merci d'être là tout le monde. Bien sûr, on va parler de cette nouvelle qui nous a beaucoup préoccupés tout l'été. Hein. Je pense qu'à peu près tout le monde, je veux dire, à peu près la moitié des Québécois ont été touchés par ça parce que c'est près de 3 millions de clients de Desjardins qui se sont fait usurper leurs données personnelles. Ça a été le gros dossier économique et social de l'été. Depuis, évidemment, on se demande tous, coudonc, je fais-tu partie des presque 3 millions? Et surtout, si vous avez reçu cette fameuse lettre que Desjardins a envoyée à ses clients, vous vous demandez où sont mes données personnelles aujourd'hui? Ont-elles été vendues? Qui joue dans mes affaires? Est-ce que c'est sur le dark web que ça s'est retrouvé? Et là, dark web, nouvel endroit finalement qui commence à intéresser de plus en plus de monde. Qu'est-ce que c'est? Moi, je veux qu'on revienne là-dessus sur ce fameux dark web parce que vous et moi, on y va pas là, parce qu'on n'a pas d'affaires là. C'est tout ce qui est là, c'est illégal. Enfin, t'as le droit d'y aller. C'est pas illégal d'aller sur le dark web. Mais si tu vas sur le dark web, c'est parce que tu cherches quelque chose en particulier. Pour bien comprendre ce que c'est, Éric Parent est avec nous. Il est patron de Eva Technologies. Il enseigne au programme de cybersécurité à Polytechnique Montréal et HEC Montréal. Bonjour, Éric.
Bonjour.
Ça a été le gros dossier, évidemment, le vol de ces données personnelles des clients de Desjardins. Puis ça nous a permis de penser à notre responsabilité aussi par rapport à ces données-là. Et là, il y a l'espèce de dark web aussi qui devient quelque chose de quasiment ingérable pour nous, simples citoyens qui sommes à peu près illettrés en matière d'Internet et de web, hein, je pense qu'on peut le dire. La plupart des gens, là...
T'sais? La majorité, c'est sûr que c'est pas notre c'est force. Là. C'est,
et là, je voulais qu'on revienne sur le dark web parce qu'on nous a dit, la police pense que beaucoup de ces données-là sont aujourd'hui sur le dark web. Qu'est-ce que c'est que le dark web?
Bien, le dark web, vraiment, c'est réellement deux morceaux. Hein. Fait que le dark web, la première partie, c'est le côté anonyme. Alors, imaginez qu'on va sur eBay et puis qu'on met à vendre des données de Desjardins. On va se faire prendre assez vite parce que eBay journalise d'où on vient, notre adresse de notre ordinateur, des choses de ce genre-là. Alors, le dark web a été né de ce besoin-là, de se cacher et puis d'avoir un peu le côté anonyme. Mais c'était pas vraiment malicieux au début. D'ailleurs, ça l'est encore pas aujourd'hui pour certaines personnes. Alors, si on est en Chine et puis on veut voir l'Internet, le vrai Internet, tout est censuré. Alors, on va utiliser des outils qu'on appelle le dark web, là, mais on va utiliser ces outils-là pour pouvoir naviguer de façon anonyme, sortir du grand firewall de la Chine là, qui bloque toutes les choses et puis de voir vraiment le vrai Internet. Ou si on est dans un pays comme ça qui est très militant,
contrôlant
et puis qu'on veut avoir une opinion, on veut écrire notre opinion sur un forum de discussion et puis que si on me retrouve, ils vont mettre ma famille à mort, exemple. Ben, ouais. Il y a des pays qui sont comme ça. Alors, on utilise ces outils-là pour se cacher, pour pouvoir naviguer sur la vraie Internet, mais en passant par le dark web qui nous cache. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la vente de données. Fait que là, on peut comparer ça à eBay. Ça nous prend un eBay, là, une façon de mettre des choses à vendre, à un enchère, mais de façon anonyme. Alors là, on embarque sur le dark web, qui est juste l'utilisation d'un furteur, d'un navigateur web qui est différent. Alors, ce navigateur-là envoie nos communications, mais il l'envoie à plein de différents endroits, des petits morceaux ici et là. Ça passe dans une chaîne, un peu comme quand on voit dans un film qu'ils veulent retracer un appel téléphonique, là, puis que ça passe par plein de pays sur une carte. Là. C'est un peu ça que ça va faire. Alors, nos communications
puis
passent par plein d'endroits.
Puis qu'ils finissent par pas le trouver, justement.
Ils finissent par pas, ouais. Parce que c'est trop difficile de ouais. reculer à chaque point que ça doit passer. Et puis même vous et moi, on peut partir un logiciel qu'on va rouler sur notre ordinateur et on va contribuer à ce réseau-là. Alors, ça va passer par nous, une partie qui passe par nous.
Sans qu'on sache.
Non, volontairement, là, on peut le faire. Il y a des gens qui vont le faire volontairement. Et ils veulent contribuer à ce réseau-là. Mais encore une fois, ce n'est pas pour alimenter le fameux eBay où on vend de la drogue, des armes et puis on donne des contrats pour assassiner des gens. Là, toutes les choses qu'on retrouve sur le dark web. C'est plus pour donner la fonctionnalité qu'on veut que les gens en Chine ou dans d'autres pays qui sont très contrôlants comme ça puissent avoir accès à la vraie Internet. Fait que c'est fait, encore une fois, de façon très volontaire et très sain. Là. C'est pas mal sain. C'est juste que, évidemment, on peut s'en servir pour faire des choses plus malicieuses. Fait qu'il y a un eBay sur le dark web qui est caché. Et puis là-dessus, ben, on peut aller vendre ou acheter des choses. Évidemment, il y a un risque.
C'est comme des couches, c'est ça? Là? C'est comme parce que vous parlez là, depuis le début de vrai Internet. Il y a un Internet, c'est ça?
Il y a un Internet, que c'est toutes des choses branchées ensemble.
Mais avec plusieurs entrées, plusieurs portes.
C'est ça. Fait que là, dans ce contexte-là, ça roule quand même sur l'Internet. On appelle ça le dark web parce qu'on ne peut pas retracer où que c'est. Alors, quand on se branche, on est habitué de rentrer un URL dans notre navigateur qui finit par .com, .ca. Ben, ceux-là vont finir par .oignon. Alors, le concept d'un oignon, c'est que ça a plusieurs couches. Alors, c'est difficile à retracer qui est réellement dans le milieu de l'oignon. Et puis, c'est un peu ça le concept. Alors, c'est pour ça qu'ils ont pris le mot oignon. Et puis, fait que c'est un URL qui...
Mais là, il y a du monde, ça les fait pleurer pas mal d'être sur, de savoir que leurs données personnelles sont sur des sites .oignon, O-N-I-O-N, c'est ça?
C'est ça.
Est-ce que c'est possible que les clientes Desjardins qui se sont fait voler leurs données personnelles... ces données-là se soient retrouvées là, se retrouvent là et
ben,
soient vendues aux enchères.
S'ils ont été vendus à un moment donné, ça devient assez probable que ça soit le cas parce qu'il y a des marchés noirs pour toutes sortes de choses. Hein. Ça peut être juste quand il y a eu une brèche de sécurité, disons, sur Facebook ou sur LinkedIn à un moment donné. Les noms d'usagers, les mots de passe ont été vendus, ils ont été partagés. Alors, les gens se font des listes, les mettent à jour et puis un dossier d'une personne peut avoir une certaine valeur. Si on a d'autres morceaux, c'est sûr que c'est juste un mot de passe. Des fois, c'est pas si important. Mais si on rajoute ça à une date de naissance, numéro d'assurance sociale, le numéro de carte de crédit, exemple, le dossier finit par avoir une valeur. Puis c'est pour ça que dans le contexte de Desjardins, c'est très difficile de se protéger contre ça quand c'est un employé à l'interne. Et puis, on peut s'imaginer qu'un employé à l'interne peut avoir accès à plusieurs dossiers. Fait que si un dossier vaut 1 $ ou 4 $ dépendant de l'information qu'on a, là, si on a vraiment toute la combinaison d'informations, ben, ça finit par être intéressant. Si on a accès à deux dossiers, c'est pas intéressant. Là. Faire 8 $, c'est pas intéressant. Mais si on a accès à 100 000 dossiers, ben, 100 000 fois 8, ça fait 800 000.
Alors, parce là, que je regardais, il y a plein d'articles qui ont été publiés là-dessus là, depuis les dernières semaines sur combien vaudraient des données personnelles sur le dark web, sur le web caché. Puis c'est pas cher. Là. Puis tu as même des catégories genre on vous donne, par exemple, tel dossier si vous l'achetez, puis mettons c'est 10 piastres, tu as accès à un compte où il y a 1 000 à 2 000 $ dedans. Fait que tu sais que tu peux avoir accès à 2 000 piastres pour 10 $.
Oui.
Mais c'est multiplié, comme vous dites, par...
Ben, c'est ce que quand tu es au bout de la chaîne de montage, c'est un aubaine. Hein? Tu n'en jettes un, c'est 10 $. Mais il y a quelqu'un quelque part qui en a récolté 1 million. Un million à 10 $, ça donne une bonne valeur.
Ouais. Qui sont ces gens qui font ça?
Ben, c'est des gens, ça peut être des gens comme vous et moi, là. C'est pas nécessairement des gens qui sont hyper techniques, mais qui ont compris que l'information, une fois qu'on met la main dessus, on peut la partager comme ça. C'est sûr qu'à la source, il y a quelqu'un qui
a... Mais c'est des fraudeurs pareils.
C'est des fraudeurs pareils.
C'est des voleurs.
C'est sûr. Mais c'est pas toujours des gens techniques parce que dans la chaîne de montage puis de revente, il peut y avoir juste des opportunistes qui sont là puis qui voient passer cette information-là sur un site qu'ils vendent et puis qui est peut-être à un bon prix. Alors, ils la jettent. Puis après ça, ils peuvent leur briser en petits morceaux, l'offrir à d'autres gens sur d'autres véhicules de distribution et puis d'aller chercher 10 $ par dossier, finalement. Fait que ça peut être plein de différents gens.
Il y a comme un écosystème... tu faisais un guichet automatique à chaque fois, finalement.
Ben, en gros, c'est parce qu'il y a un écosystème au complet qui s'est créé autour de ça. À la base, c'était peut-être des gens très techniques qui ont commencé ça, mais de jour au lendemain, il y a des gens de toutes les catégories qui sont impliqués dans le dark web et puis qui s'en servent, finalement, pour faire de l'argent.
C'est incroyable. Je sais qu'on peut trouver toutes sortes d'affaires. Là. J'avais vu il n'y a pas longtemps là, que tu peux faire tuer un journaliste pour 80 000 $.
Tu peux
avoir
c'est une
des enfants, que... tu peux avoir tout ce que tu veux. Là. Il n'y a pas de limite. Là.
Ouais. Ça cause un vrai problème pour les enquêtes. Parce que, évidemment, c'est des outils que, comme je disais, à la base, ça a une belle vocation. C'est d'essayer de protéger le droit d'expression des gens. Mais le côté négatif, c'est qu'on peut s'en servir pour faire toutes ces choses-là. Et puis, ça devient très difficile de faire une enquête parce que toutes les choses sont cachées, justement.
Mm. Comment Desjardins peut se prémunir de ça, Desjardins ou d'autres? Parce qu'à la rigueur, vous parlez de cet employé, là, cet ex-employé de Desjardins là, qui a voulu se venger, qu'on pense. Là. Bon, imaginez, on est à la merci de tous les employés ou ex-employés qui ont une crotte sur le cœur contre une compagnie d'assurance, comme tous ceux qui ont nos données, là, on les donne nous-mêmes. Là.
On les donne nous-mêmes.
On est très généreux de nos données. Là.
Rien que dans Facebook, les gens vont publier leur date de naissance, là, qui n'est probablement pas une bonne idée. Mais c'est sûr que dans l'entreprise, se protéger contre ça, c'est très difficile. Alors, on peut quand même se poser des questions. On ne voudrait pas être obligé de s'y poser parce qu'il y a un coût associé à ça. Si on essaye de vraiment se protéger contre des gens qu'on veut faire confiance. Fait qu'exemple, si on a quelqu'un qui s'occupe du marketing, là, il fait des campagnes de publicité et des choses de ce genre-là, ben on l'a embauché, cette personne-là, on lui paye un bon salaire, on voudrait y faire confiance. Si on décide qu'on veut se protéger contre ce genre de personne-là, ben là, Il faut être très vigilant. Fait quand les gens vont demander une liste de marketing pour faire une promotion, puis qu'ils veulent, je ne sais pas moi, les femmes entre 30 et 50 ans, ben il faut s'assurer qu'on n'envoie pas un fichier qui donne la date de naissance, qui donne juste le filtrage qu'on a demandé. Oui, ils ont entre 30 et 40 ans ou 50 ans. Il faut devenir très vigilant. Puis les banques ne sont pas habituées à ça. Puis l'autre problème aussi dans les banques, ça date de longtemps. Puis leur système informatique, il y a des vieilles technologies là-dedans. Puis dans le temps, la meilleure façon d'identifier quelqu'un, c'est avec son numéro reconnaissance sociale. Fait que dans toutes les bases de données, tous les systèmes qui sont dans une banque, souvent, la clé unique, c'est le mot juste de numéro d'assurance sociale. Fait qu'il est utilisé tout partout. Ça peut être dans le système le plus banal au plus complexe. Et puis, il faut éliminer ça également. Fait qu'il y a des technologies pour ça, mais il y a un coût. Fait qu'à mesure qu'on avance dans le temps, les gens vont le faire, mais ça va prendre du temps.
Oui, on a parlé du fait que Desjardins avait été long là, à parler aux gens, bon, même si le président Guy Cormier est sorti quand même assez rapidement. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, la réponse est bonne, d'après vous, Éric?
La réponse est pas bonne, mais c'était difficile à prévoir au début. Alors, au début, on disait Desjardins a quand même été très transparent. Et oui, on fait une enquête. Faut avancer l'enquête. Faut pas tuer l'enquête. Alors, il y a des enjeux, des fois, qu'il faut pas nécessairement le dire le premier cinq minutes, là. Faut attendre, puis faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui ressort graduellement, c'est qu'on repose quand même sur la confiance qu'on donne à des compagnies comme Equifax. Et puis, le message qu'on envoie, c'est « faites-vous-en pas. S'il y a un problème, on va vous couvrir. Equifax va vous le dire, etc., etc. »
Equifax, après, c'est pas à l'abri non plus de
pas du tout. Ils ont eu des problèmes. Ben oui, ils ont eu des problèmes. Mais non seulement ça, le mécanisme fonctionne pas. Le mécanisme est brisé aujourd'hui. Fait qu'il y a déjà des journalistes qui l'ont démontré avec une enquête qu'ils ont fait. Et puis, sur carte de crédit qui a été fait sur un dossier, ben, il y en a seulement une qui a enlevé une alerte. Mais ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu une alerte éventuellement, parce que ça prend du temps. Alors, si cette banque-là ou la carte de crédit, cette compagnie, là, fait affaire avec TransUnion au lieu d'Equifax, un jour, fait qu'un mois plus tard, ils vont peut-être partager leurs informations. Puis là, l'alerte aurait fonctionné. C'est juste que c'est pas ça le message qu'on envoie aux citoyens. Aux citoyens, on dit « faites-vous-en pas, on va mettre en place Equifax, ça va vous le dire s'il y a quelqu'un qui vole votre identité. » Mais la réalité sur le terrain, c'est que ça va quand même se produire, on va éventuellement te le dire, mais c'est toi qui vas vivre la merde qui vient avec, parce qu'une fois que tu t'es fait voler ton identité, c'est quand même toi qui va falloir qu'ils se débattent, qui demande à Desjardins ou à Equifax de vous aider.
C'est tellement un problème, là.
Ben oui, il y a même un notaire, j'ai vu passer un article de je pense, d'un journal, qui y avait un notaire là, qui s'était fait voler son identité, ils ont pris le contrôle de son compte en fiducie, et puis ils ont siphonné 1,5 million de son compte. Là. Fait que lui, il faut qu'il y ait le ménage après. Là. Ça l'a perturbé ses affaires. Fait que c'est bien beau qu'on ait un service qui est offert d'Equifax, mais ça c'est un peu, ça donne pas grand-chose.
Oui, OK. Bon, ben écoutez, on va s'arrêter ici. On va aller à la pause. Au retour, on va donner l'occasion à nos auditeurs de pouvoir vous poser des questions, s'ils en ont, sur la protection de nos données personnelles. Puis je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes plus inquiet aujourd'hui en cette fin d'été qu'au début de l'été où là, bon, on n'avait pas encore, on était quasiment vierge un peu là, par rapport à Desjardins. En tout cas, on ne pensait pas du tout que ça arriverait. Mais il y a tellement de... Je veux dire, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, vous le savez. Moi, encore ces jours-ci, je me suis fait voler mon identité sur Facebook. Sur Instagram, ça arrive régulièrement. Juste sur les réseaux sociaux, imagine quand ça va chercher tes données bancaires, tes adresses, tes numéros de carte de crédit, tout ça. Comment peut-on se protéger? Est-ce qu'on est vraiment capable de le faire aussi? Ça, c'est nos autres questions. Éric, vous allez y répondre, bien sûr, après la pause. 514-790-9850 pour nous joindre. Et partout au Québec, le 1-866-790-9850. On s'intéresse au dark web ce matin, ce fameux web caché. Pourquoi? Parce que, bon, on comprend qu'il y a une urgence à protéger nos données personnelles depuis la fraude là, qui s'est passée avec vos données chez Desjardins. Si vous êtes un des 3 millions de Québécois dont les données ont été usurpées. On a Sylvain qui est avec nous. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour.
Avez-vous reçu la lettre de Desjardins?
Moi, je l'ai personnelle, puis je l'ai commerciale aussi. Là, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Les deux bas viennent de me tomber. Là, deux semaines et demie, je vais chez Walmart, je demande la carte de crédit là, qui donne des retours à la fin de l'année. Ils demandent notre permis de conduire pour rentrer ça. Fait que sur le permis de conduire, ça commence par ton nom de famille puis ton prénom. Fait qu'ils ont rempli le dossier de carte de crédit avec le nom à la place du prénom. Puis la jeune fille a même oublié une lettre à mon nom de famille. Puis j'ai reçu la carte de crédit par la poste.
Incroyable. Ouais.
Là, je me dis, ça n'a aucune espèce de bon sens. Comment qu'on peut émettre une carte de crédit à quelqu'un qui n'a même pas d'adresse véridique là, que le nom il est inexistant parce qu'il manque une lettre en plus dans le nom de famille. Je reçois ça, puis là, je les appelle, puis il me demande de fournir des renseignements pour prouver qui ce que je suis. Ben non, j'ai dit, regarde, ferme le compte, là. Moi, en plus, je suis dans les deux dossiers avec Desjardins. Mais je comprends pas, là. Comment sont-tu tellement... C'est tellement facile, le crédit. Ils font tellement d'argent avec ça qu'au bout de la ligne, les vérifications sont pas là.
Oui, ben, parce que, ouais, allez-y, Éric.
C'est exactement ça. C'est ça le vrai problème, là, ou un des vrais problèmes qui est caché en dessous de ça, c'est que le crédit est beaucoup trop facile. Et puis, on pourrait peut-être changer des choses au Canada, parce qu'on a 4-5 grosses banques, là, c'est facile, comparativement aux États-Unis. Mais on peut aller au Macy's à New York. Je me rappelle, j'étais là avec ma conjointe à un moment donné, puis on attendait en ligne, puis ils ont offert une carte de crédit, là.
Ah non, mais si, c'est super facile d'en avoir une.
Ben oui, puis là, le problème, c'est que les gens qui offrent les cartes de crédit, ben ils sont pas payés 200$ de l'heure là, pour faire ça. Là. Ils sont payés à commission. Fait qu'ils ont intérêt à en passer des cartes de crédit. Alors, quelqu'un, on va dire au salaire minimum, là, pour utiliser le terme, qui est là pour authentifier que la personne devant eux est la bonne personne, c'est pas fort.
Mais aux États-Unis, là, sincèrement, moi, je suis étonnée, j'ai fait beaucoup de demandes de cartes parce que j'y vais régulièrement. Puis à part celle de Macy's, ou de Saks, des cartes de magasin. J'ai jamais pu avoir de carte de crédit de banque parce que ça te prend un numéro, ce qu'ils appellent le fameux social. Là.
Oui.
Ça te prend... il faut que tu sois américain là, ou que tu aies une carte verte. Ouais. Mais, sinon,
mais aller à l'aéroport, là, à Dorval, là, ou Trudeau, whatever qu'ils l'appellent, et dans le passage, ils vont vous offrir une carte de crédit.
Ah, ouais. Mais tu sais, la question... Sylvain, il posait la question. Je comprends pas qu'on envoie des cartes de crédit à des gens qui en demandent pas. Allez voir les étudiants là, qui vont tous en recevoir. Tu es au cégep, puis tu as des propositions de carte de crédit.
Oui, mais regarde, on change la loi. On rend ça... Ouais. Premièrement, on rend ça plus difficile. D'avoir une carte de crédit, là. Pas pour les gens légitimes, mais d'un point de vue processus.
Ouais.
Et puis, on met des grandes pénalités, mais les pénalités ne touchent pas juste l'entreprise. Alors, donner une pénalité de 10 000 $ ou même 1 million de $ à Desjardins, là, ça a zéro impact. Pourquoi? Ce n'est pas les gestionnaires qui sont responsables.
Oui, puis on va finir par la payer, la maudite pénalité.
Oui, c'est ça. Ça baisse le chiffre d'affaires, ça ne fait pas grand-chose d'autre. Ouais. Mais mettez la pénalité directement sur les gestionnaires quand il y a un processus qui est trouvé, disons, criminellement irresponsable ou quelque chose de ce genre-là. Puis, du jour au lendemain, bien, ça va se nettoyer, ce problème-là, parce qu'on va se ramasser avec... quand quelqu'un crée une fausse carte de crédit à ton nom, bien, il y a une pénalité qui est mise. Toi, tu es couvert. On t'envoie un chèque de 250 000 $ pour te couvrir pour tes problèmes que ça t'a causé. Exemple, là, je fais rien que spéculer. Mm-hmm. Mais ça, c'est sûr que ça changerait un peu les choses. S'il y aurait des vraies pénalités, là, s'il y aurait une loi avec du mordant pour pas que ce soit facile, ce soit avantageux, finalement. Parce que là, les pertes qu'une banque fait avec les fausses cartes est quand même plus petit que l'argent qu'ils font en donner des cartes en quantité industrielle, là, si on veut.
Ouais. Je sais pas si Sylvain est toujours avec nous, mais
Oui,
vous êtes là, Sylvain. Je voulais vous demander, donc là, c'en est où? Avez-vous des nouvelles de Desjardins? Là, quand les avez-vous
c'est pas Desjardins, c'est carrément Walmart. Puis moi, j'attends, là, ça va faire 2 semaines. La lettre de fermeture de compte est toujours pas rentrée. D'après moi, on m'a été obligé de rappeler encore. Le problème, c'est quand ils te demandent d'autres renseignements. Tu sais.
Non,
même ils t'appellent au téléphone. Non, ouais. Tu m'appelles, je te donne pas de renseignements. Là.
Ouais, non, c'est sûr.
Mais
par rapport à Desjardins, vous disiez, là, vous avez à la fois votre compte perso puis votre compte d'entreprise qui a été...
À date, j'ai rien de spécial. Bon. Là,
et probablement, c'est ça. Merci de votre appel. Probablement que c'est ça qui va arriver. Là, beaucoup de gens n'auront aucun problème, sauf qu'on le sait pas. C'est ça, Eric?
Mais ça peut prendre du temps, parce que là, on parle toujours du côté financier. Là, une carte de crédit, exemple. Une carte de crédit, veut pas. Si quelqu'un fait une fraude, parce qu'il ne payera pas. Fait que s'il ne paye pas, tu vas finir par le savoir là, qu'il n'a pas payé. Mais il y a des affaires qui sont un peu plus tordues. Hein. Quelqu'un pourrait transférer une propriété. Fait que ta maison est peu à toi, finalement, a été transférée. Mais là, ça ne veut pas dire que tu vas le savoir de suite. Ils peuvent passer du temps, des semaines, des mois, des années, avant que tu t'aperçoives qu'il y a ce problème-là. Tout ça pour cacher un peu les traces de l'attaque qui a été faite ou de la fraude qui a été faite.
On a Yvan avec nous. Bonjour.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Moi, c'est arrivé là, 7 mois avec Desjardins. Je travaille sur la route, je couvre la province de Québec et bon an, mal an, je peux utiliser dans un mois ma carte de crédit, là, 1500, 2000 $. Je reçois un coup de téléphone de Desjardins pour dire, Monsieur Boisvert, il y a des retraits de 2000 à 3000 $ qui viennent de se faire à la dernière heure dans votre compte régulier. Bon. Je dis non. Et tout ça, pour une longue histoire courte, ça m'a pris 8 mois. Pour prouver à Desjardins que c'était pas moi qui avais fait ça. Et moi, j'ai une question à votre expert. Depuis ce temps-là, mais moi, je ne crois pas au hasard, 2 à 3 fois par mois, j'ai des actions d'hameçonnage qui se fait, à savoir des États, des États-Unis qui me laissent des messages sur mon téléphone disant qu'il y a un mandat d'arrêt contre moi. Et on me laisse un choix... soit paiement, ou soit ci, ou soit ça. Ma question est, y a-t-il un hasard avec ce qui m'est arrivé avec Desjardins, et tout d'un coup, out of nowhere, arrivent ces hameçonnages-là.
Moi, j'ai été hameçonné comme ça aussi par des boîtes téléphoniques qui me... Il y a beaucoup de gens qui l'ont reçu, celle-là. Il y a eu des fraudes au Revenu Canada. Ils prétendaient être Revenu Canada aussi. Éric Parent, est-ce que ça peut avoir un lien? C'est la question du vent.
Ben, c'est un peu plus coïncidence, mais il y a un lien dans le sens où à mesure que notre nom et puis notre numéro de téléphone ou notre adresse de courriel ressort dans des listes comme ça, ben ça devient une liste à jour. Alors, les attaquants qui font ce genre de fraude-là vont servir des listes qui sont plus à jour que des vieilles listes.
Ouais.
Fait que des fois, ça va refaire surface. Là.
Mais je pense que ce qu'il faut dire aux gens, puis on reviendra sur la question des appels, parce qu'il y en a beaucoup, là, des appels frauduleux là, sur les cellulaires. Le cellulaire, c'est aussi tout un autre monde, là, à part le dark web. Moi, j'en ai reçu plein cet été. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est raccrocher tout de suite là, si vous reconnaissez
pas. Oui, puis les textos, il n'y a pas une banque qui va t'envoyer un texto pour te demander quelque chose.
C'est ça. Exactement.
Revenu Canada n'est pas pressé de te payer. Là.
Bon, il y a des gens là, qui veulent savoir comment on va sur le dark web. Là. Mettons qu'on est gentil quand même, c'est pas pour acheter des photos d'enfants. C'est vraiment, parce que là, il faut le dire, il y a trop de pédophiles là-dessus. Il y a toujours, de toute façon, c'est un gros problème, ça. La prostitution infantile est beaucoup sur le dark web. C'est pour ça que ça doit être à tout prix contrôlé mieux que ça. Il y a des gens qui sont curieux. Est-ce qu'on peut aller sur le dark web sans danger?
Oui, sans danger. On va dans Google ou Bing, on fait une recherche pour TOR, Tor, qui est l'acronyme pour The Onion Router. Et puis, c'est ça l'outil qu'on va télécharger. Ça vient avec son propre navigateur. On installe ça sur notre ordinateur, on le part et puis on est rendu potentiellement sur le dark web. Là, il reste une étape à
faire.
Mais
est-ce qu'on est vu? Moi, j'ai voulu le faire, rien. Puis j'ai eu comme un peu la chienne. Je me suis dit, ouais, attends une minute, fais pas ça de ton ordinateur. D'un coup que...
Ben, si t'es un criminel...
Si on rentre quelque part, est-ce que les autres peuvent rentrer aussi dans notre système?
En théorie, non. Il y a des mises à jour là-dessus aussi. Fait que ça veut dire qu'il faut toujours prendre la dernière version. Parce qu'il peut y avoir des vulnérabilités qui ont été découvertes. Alors, ils vont être réglés quand il y a une nouvelle version. Alors, si on a installé ça il y a 2 ans, faut pas l'utiliser.
Y a-t-il moyen d'y aller aussi caché?
Ben, caché, c'est ça la nuance. Si on a vraiment des enjeux qui pourraient nous causer des gros problèmes, là, pas seulement si on est criminel, mais si on est dans un pays où que si on se fait pogner, on va aller en prison parce qu'on a eu une opinion, ben, faut prendre certaines précautions. Alors, on ne roulerait pas ça sur notre ordinateur qu'on utilise au quotidien. Peut-être qu'on utiliserait un autre ordinateur ou on le mettrait sur un CD, un DVD pour le démarrer là-dessus puis être le plus isolé possible de notre ordinateur. Fait qu'il y a quand même des précautions à prendre dépendant du niveau de risque. Si on parle d'un Canadien ou d'un Québécois, on n'est pas dans ce monde-là. Là. En théorie, nous, on a le droit d'avoir une opinion. Alors, on pourrait le rouler sur notre ordinateur et aller voir qu'est-ce que ça donne le dark web.
On ne se met pas à risque en le faisant. Là.
Non, pas vraiment. Là. Ça dépend toujours de notre
pas
notre
plus
but,
que
là, finalement. Mais pas
d'avoir
plus,
une carte de crédit plus, ou d'avoir une carte d'échec automatique.
D'avoir un compte chez Desjardins,
ouais,
semblerait.
C'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Éric Parent. Très éducatif. Éric Parent est PDG de Eva Technologies. Il enseigne au programme de cybersécurité à Polytechnique Montréal et à HEC Montréal. On reviendra, Éric, parce qu'il y a plein d'autres questions de cybersécurité. Je pense que la cybersécurité, ça va être le sujet des 10 prochaines années.
C'est la mode.
Clairement. Merci beaucoup d'être venu à l'émission.
Journée.
On s'arrête ici et tout de suite après, on s'intéresse à la religion des sorcières et des sorciers. L'Halloween, c'est pas tout de suite, là. Capotez pas, non. On veut pas que ça soit tout de suite. Même si les décos ont commencé à arriver dans les magasins, on ne peut plus. N'empêche que c'est intéressant parce qu'il y a une pleine lune qui s'en vient, là. Une nouvelle lune qui s'en vient et c'est relié à ça. Bref, on va tout vous dire après la pause. Restez là. J'ai une vraie sorcière dans le studio. Oui.